Voilà, alors heureux de vous retrouver dans ce marathon. Là, on a le menu est copieux jusqu'à, si j'ai bien compris, on est là jusqu'à 16h30, c'est ça, heure locale. Mais on va faire une pause vers 15h30 par là. Alors moi, j'ai un avantage sur vous, c'est que je suis debout. Bon, franchement, alors je vous propose le jeu suivant. Si vous voyez que j'endors, vous me réveillez, hein. Donc, ça veut dire que vous devez rester éveillé. Voilà. Alors, bon, oh là là là. Alors là, je vais faire travailler la technique. Il faut qu'on avance à 6, 19. Tout à l'heure, il y était, et puis il est revenu en arrière. Alors voilà. Donc, on parle donc du plaidoyer pour un christianisme cohérent, les béatitudes, la question du caractère, la vision, lumière du monde, celle de la terre, une échelle de valeur, on a vu ça hier. Ce matin, on a survolé rapidement la spiritualité du membre du royaume. Et là, on va arriver, voilà, alors au chapitre 6, verset 19. Voilà, c'est là, c'est très gentil, merci. L'ambition, plaidoyer pour un christianisme cohérent. Et, ah ben non, on revient au départ. Alors, voilà, on va pas licencier l'équipe qui, voilà. Mais c'est donc 6, 19. L'ambition du chrétien, une question de priorité. Alors, c'est encore plus loin. Voilà, merci beaucoup. Là, on est bon. Voilà, à partir de cette diapo. Voilà, merci. Donc la question que Jésus va poser dans ces versets 19 à 34 du chapitre 6e, le membre du royaume qui vit sur la terre, quelle est son ambition? Quelle est sa passion? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le pousse à faire ce qu'il fait? Et Jésus va nous montrer que l'ambition du membre du royaume, elle doit être d'ordre spirituel et non pas matérielle. Elle doit focaliser sur des réalités éternelles et non pas temporelles ou passagères, sur des réalités invisibles plutôt que des réalités visibles. Et je vais lire rapidement Matthieu 6, verset 19. Ensemble, la question, Jésus pose la question, quel est mon rapport à l'argent? La sagesse populaire dit bien que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et la question est de savoir quel est mon rapport à l'argent. Souvent on pense que notre problème c'est qu'on n'a pas assez d'argent. Alors c'est vrai que la Bible elle parle beaucoup d'argent. On a relevé qu'il est plus souvent question de l'argent que de la prière au Nouveau Testament. Jésus a raconté 38 paraboles, dans au moins 16 d'entre elles il est question d'argent. Et c'est pas un sujet tabou, je dirais. Et je pense à un homme de Dieu itinérant qui s'appelait André Adoul, qui a eu un long ministère. Et il a dit, dans mon long ministère, j'ai entendu toutes sortes de confessions dans la bouche des chrétiens. Mais il y a une confession que j'ai rarement entendue, c'est « Pardon Seigneur, parce que j'aime les sous ». Hein, Gripsou, Picsou, Rapetou, je vous renvoie à vos classiques. Et d'ailleurs, il a écrit un livre, Dieu et mes sous. La question est de savoir quel est le rapport que j'entretiens avec l'argent. On a dit hier cette béatitude où Jésus dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Jésus ne fait pas l'éloge de la débilité mentale, encore moins celle de la pauvreté matérielle. Plaise à Dieu que dans nos églises il y ait des gens fortunés, mais qui mettent de l'ordre dans leurs priorités. J'ai connu un homme d'affaires en Australie, qui avait une très grande affaire de transport, et au moment de la retraite, il a vendu son affaire, et puis il a injecté beaucoup d'argent à soutenir des missionnaires dans le monde entier. Et lui, il menait un style de vie très simple. Je crois qu'il avait une voiture, elle avait 15 ans sa voiture, et il circulait pas mal en bicyclette. Enfin, pour dire que il y a des gens qui ont des grands moyens, qui ont un style de vie très simple et qui ont investi leurs billes, leurs moyens pour faire avancer la cause de l'Évangile. Et donc, vous le savez comme moi, on peut être pauvre et être gripsou, pixou et rapetou, aimer les sous, tout comme on peut être riche et avoir un don de libéralité. Donc, le problème de fond n'est pas de savoir si j'en ai trop ou pas assez d'argent, mais quel est mon rapport à l'argent. Voilà donc ce que Jésus nous dit. Verset 19 du chapitre 6. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Entre parenthèses, rien que dans ce verset, Jésus souligne trois grands ennemis, en tout cas du moins à son époque, qui guettent ou pièges qui guettent ceux qui ont beaucoup d'argent. La rouille, les mythes et les cambrioleurs. Au temps de Jésus, il y a même des gens qui se faisaient tisser leur richesse d'or dans des vêtements, mais bon, je pense pas que les mythes aient rongent l'or, mais enfin, c'est pas simple à gérer. Verset 20. « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce des murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Donc, richesse matérielle ou spirituelle, je ne sais pas si, imaginez si la police devait vous arrêter et vous jeter en prison et vous dire, voilà, vous avez le droit de prendre une seule chose avec vous. Qu'est-ce que vous emmèneriez? À quoi est-ce que je tiens le plus? Et Jésus va souligner la nécessité de choisir la bonne attitude à l'égard des biens matériels. Et pour lui, il y a un seul trésor qui compte. Et le trésor, c'est pas celui qui est sur la terre. Mais avant d'aller plus loin, on peut se poser la question à notre niveau, quel rôle joue l'argent comme facteur de motivation dans ma vie personnelle? Quel rôle joue l'argent comme facteur de motivation dans ma vie personnelle? On peut même se poser une autre question. Quel rôle joue l'argent dans mes relations avec les autres? J'ai rencontré un chrétien qui avait une affaire. Cinquième génération, il avait hérité une menuiserie fondée par l'arrière-grand-père. Il était la cinquième génération, il avait une affaire florissante de menuiserie. Il s'est associé avec un cousin, un proche de la famille. Et puis au bout de quelques années, bah, il s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans la caisse. Et à telle enseigne qu'il a fallu déposer le bilan. Et ce chef d'entreprise, même s'il avait que son cousin comme associé, il s'est retrouvé au bas de l'échelle sociale et il a retrouvé un job, il avait 50 ans passé, payé autour du SMIC. Et puis il m'a dit, c'est clair que je souhaite à personne ce qui m'est arrivé. Par contre, moi je dors bien la nuit, j'ai ma conscience pour moi et je ne voudrais pas être à la place de mon cousin. Waouh! Voilà quelqu'un pour qui, à la limite, maintenir une relation, c'était plus important que sauvegarder son patrimoine financier. Pas besoin d'être grand notaire, et Dieu sait si les notaires auraient des livres à écrire sur quand l'heure du partage vient, heureusement que tout n'est pas enregistré, au niveau de ce qu'on entend, mais il y a des familles, des fratries qui se divisent, qui se disloquent au moment du partage des biens. Et la question de fond, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est les relations? Je suis pas en train de dire que un chrétien doit être prêt à s'asseoir sur tout l'héritage qui lui revient, mais ce sont des questions de fond. Et puis l'autre question qu'on peut se poser, c'est quel est le meilleur usage que nous puissions faire de notre argent comme de nos biens matériels? Alors bien sûr que l'Écriture nous invite à gérer avec sagesse notre budget et faire en sorte que dans la colonne dépenses, ça aille pas plus vite et plus loin que dans la colonne recettes. L'Écriture loue la vertu d'anticipation de la fourmi. Et moi, c'est une raison pour laquelle j'aime les reportages animaliers, parce que vous en saurez des choses hein, sur moi. Moi, je trouve que bien souvent, les animaux font par instinct ce que l'être humain devrait faire par intelligence, mais c'est pas toujours gagné. Bon, c'est un autre message. Mais en tout cas, on doit gérer notre budget, et puis c'est pas manquer de spiritualité ou de foi que de capitaliser pour sa retraite. Hein. Alors je sais que dans les années 70, c'était pas très spirituel de dire ah ben là je souscris à un plan épargne retraite parce que ben, Jésus allait revenir bientôt. Alors on a dit que Jésus revenait bientôt et moi j'y croyais comme tout le monde et on y croit et on doit toujours y croire et il peut même revenir avant la fin de mon message, Dieu soit béni. Mais en attendant, 40 ans plus tard, on a vu des pasteurs arriver à la retraite, à l'âge de la retraite, et ben il fallait prier deux fois plus que Jésus revienne plus vite que prévu parce que c'était pas gagné hein, la retraite de certains serviteurs. Donc il faut un certain équilibre et un certain... Mais pour autant, la question reste de savoir quel est le meilleur usage que nous puissions faire de notre argent comme de nos biens matériels. À l'époque où John Rockefeller comptait parmi les hommes les plus riches de la planète, quelqu'un lui a posé une question. À partir de quelle somme peut-on considérer qu'on est riche et à partir de quand est-ce qu'on peut se satisfaire? Et Rockefeller a répondu: à partir du moment où j'en aurai encore un peu plus. Bon, la Bible dit que le cœur humain est comme le séjour des morts ou la femme stérile qui ne dit jamais assez, hein, et l'être humain semble perpétuellement insatiable. Alors Jésus dit non à l'accumulation des richesses matérielles, terrestres et temporelles. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alors ce qui pose problème, c'est un mauvais rapport à l'argent. Parce que bon, les richesses ne se font pas que des amis. Les richesses en soi n'ont pas réponse à tout. Et Hébreux 13:5 nous dit bien que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Bon. Je ne pense pas qu'il soit juste d'alléguer ce texte pour refuser une promotion professionnelle avec une augmentation de salaire à la clé. C'est légitime. Maintenant, tout est dans la motivation et qu'est-ce qui est derrière tout ça? Jésus, au verset 20, dit oui à l'investissement dans les richesses spirituelles, célestes et éternelles. Il dit « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur. Amassez des trésors dans le ciel. » Et au verset 21, Jésus dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc c'est précisément ce qui compte. Et Jésus pose la question, enfin, il met le doigt là où ça fait mal. Ce qui a le plus d'importance pour toi, eh bien, c'est ce en quoi tu vas t'investir. Quel trésor et pour quel usage? Alors Dieu est la seule valeur sûre et en somme ça pose la question de la motivation. Et Jésus dans ce domaine nous dit que c'est important d'avoir une bonne vision des choses. Parce que finalement le fait de s'attacher aux choses matérielles risque d'avoir une incidence dans ma considération des réalités spirituelles. Si mon horizon se limite sur cette terre et au niveau matériel et temporel, ben, je vais pas voir guère plus loin que le bout de mon nez et me préoccuper des réalités spirituelles et éternelles. Et Jésus souligne l'importance d'avoir une bonne vision. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si les yeux sont en bon état, ton corps entier jouera de la lumière. Alors, des yeux en bon état dans le contexte, c'est avoir la bonne vision des choses, celle qui correspond à la volonté de Dieu. Le danger d'une mauvaise vision, mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera dans l'obscurité. Alors, quand les yeux sont malades, eh bien, il y a des conséquences. Et on n'a pas une bonne perception des réalités. Et au verset 24, Jésus souligne l'importance de bien choisir le maître que l'on veut servir. Et pour lui, il n'y a pas 36 solutions. Hein, il dit, on ne peut pas être au service de deux maîtres. Un esclave ne peut pas être à mi-temps pour un maître et à un autre mi-temps pour un autre maître. C'est l'un ou c'est l'autre. On peut se poser la question, à quoi est-ce qu'on reconnaît une personne qui est gagnée à l'amour de l'argent ? Bon, en général, les gens dont le maître mot c'est faire toujours plus d'argent, en général, ils vont piétiner leurs voisins, hein, ils vont considérer les gens comme des instruments, des outils pour atteindre leurs objectifs à eux, et ils ne vont pas faire de sentiments. On parle parfois des actionnaires qui injectent leurs ressources et qui se préoccupent absolument pas du côté humain, hein, des employés. Alors on peut se poser aussi la question à quoi ressemble ou à quoi reconnaître une personne qui est passionnée par le Seigneur. Alors on va le voir, Jésus va dire cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, vous seront données par-dessus. À quoi reconnaît-on une personne passionné par la poursuite de la cause qui fait promouvoir le royaume de Dieu. C'est ça, là. Et la concurrence, elle existe. Et Jésus dit, il n'y a aucun compromis possible. Alors, on disait hier, on rappelait cette parole des philosophes qui disent, la passion, c'est le moteur de l'action. Et les passions qui font aller le monde, c'est, on le disait hier, c'est clair, c'est la soif du pouvoir, c'est la recherche de l'argent, et puis c'est le plaisir sexuel, entre autres, ou celui des paradis artificiels, etc. Jésus souligne le drame d'un cœur partagé. Quelqu'un qui a une mauvaise vision des choses, et qui, on va dire, le dimanche, le maître qu'il sert, c'est Jésus, et puis dans la vraie vie, en dehors du culte, et la semaine, c'est Mammon. C'est... Alors que Jésus parle d'un amour exclusiviste. J'aime bien la manière dont la Bible du Semeur rend cette expression que Dieu est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui ne tolère aucun rival. C'est une question de loyauté, d'allégeance exclusive accordée à l'un ou à l'autre. Et si on choisit d'investir toute sa confiance dans le Seigneur et de miser sur pour faire promouvoir la cause du royaume, c'est pas du 50-50, c'est même pas du 60-40, c'est vraiment du 200%. Et le Seigneur attend de nous cet amour qui ne tolère aucun rival. Et tout ce qui pourrait faire concurrence, c'est un intrus, c'est l'idolâtrie. Hier, on a rappelé cette béatitude, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, et on a dit que la pureté, c'était l'absence de mélange. Et dès lors qu'il y a un intrus dans mon allégeance envers le Seigneur, ou mon amour pour le Seigneur, ça c'est une idole, et à bas des idoles. Alors dans les versets 25 à 32, Jésus souligne la nécessité de renoncer à l'inquiétude. Alors c'est intéressant, on cite ce texte de Matthieu 6, 25-32, mais souvent en dehors du contexte. Jésus vient de parler de l'amour des richesses. Et dans ce contexte-là, il dit que l'amour des richesses, non seulement ça pose problème dans le sens que c'est un mauvais calcul, mais deuxièmement, l'amour des richesses, par définition, va induire des effets secondaires indésirables. Et entre autres, c'est l'inquiétude, qui est le fait de perdre sa paix intérieure. Je crois qu'il y a une fable de Jean de La Fontaine, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est le savetier et le financier. Allez, je vous renvoie à vos classiques, là, en ce beau dimanche après-midi, à une heure qui n'est plus très chrétienne, 15 heures heure locale. Le savetier et le financier. Le savetier, lui, il chantait du matin au soir, il arrivait tout juste à gagner sa vie, à joindre les deux bouts. Mais le financier qui était au-dessus, qui était à fond dans les affaires, lui, il en perdait le sommeil parce qu'il avait peur de perdre son argent. Et pour rien au monde, il n'aurait voulu que le financier lui donne ses richesses au risque qu'il perde sa paix. Bon, eh bien, Jésus a raconté bien avant Jean de La Fontaine. Voilà ce qu'il dit au verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en demandant qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous, par ses inquiétudes, à force d'inquiétudes, peut prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Waouh. Ben là, c'est le meilleur des antidépresseurs. Et ça risque pas d'enfoncer la sécurité sociale dans le déficit financier. Posons-nous la question. À quoi reconnaître une personne inquiète? Une personne inquiète, en général, elle va perdre sa paix intérieure. Elle va être à la merci des événements, des mauvaises nouvelles, et elle va en oublier de vivre au présent. Alors, il y a des gens qui s'inquiètent à cause de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui s'inquiètent à cause de ce qui risque de leur arriver. Mais finalement, on en finit par oublier de vivre l'instant qui passe. Alors, il y a inquiétude et inquiétude. Il y a une forme d'inquiétude qui est légitime. L'étudiant qui n'a pas révisé pour son prochain contrôle, lundi matin, il a de quoi s'inquiéter. Bon, le drame, c'est qu'en général, c'est les parents qui s'inquiètent plus que... Il y en a qui s'inquiètent un peu trop et d'autres pas assez. Hein. Si les uns pouvaient en donner aux autres, ça rétablirait l'équilibre. Il y a de quoi s'inquiéter si on s'approche du bord d'un précipice. Donc, il y a une forme d'inquiétude qui est légitime. Et qui est le fait de tout être normalement constitué, qui a une raison légitime de s'inquiéter. Maintenant, évidemment, il y a d'autres sujets pour lesquels il n'est pas légitime de s'inquiéter. Et on va voir même que il y a des l'inquiétude peut être carrément une forme de péché. Alors, dans cette section, Jésus martèle la leçon. L'inquiétude est incompatible avec l'appartenance au royaume. Et Jésus va la dénoncer à de multiples reprises. Et il enseigne que l'inquiétude constitue un péché et une attitude coupable, une attitude inadmissible et irrecevable pour plusieurs raisons. D'abord, c'est incohérent et c'est aberrant. Dans les versets 19 à 21, je dois reprendre mon texte, revenir en arrière. Voilà. Dans le verset 19, il dit que non, c'est pas 19, c'est 25. Pourquoi c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire ou qu'allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Si on réfléchit bien, dans le monde occidental, ou en terre d'opulence, de richesse matérielle, pour quelle raison les gens s'inquiètent-ils ou s'agitent-ils? Les fêtes de Noël vont s'approcher, et la grande question pour bien des gens, c'est quel est le menu qu'on va offrir à la tante Hortense. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui a une tante qui s'appelle Hortense. Mais en Occident, il semble bien que la vie, ça se rapporte à l'être. On ramène l'être humain à un tube digestif. L'être humain semble être une bête à consommer. On parle du consumérisme. Et Jésus dit que pourquoi s'inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire. Alors, bon, il faut quand même contextualiser ce propos. Maintenant, c'est clair qu'il y a des pays où, si on a un repas par jour ou tous les deux jours, on est reconnaissant. Bon, nous, on n'est pas sous cette configuration-là. Le drame, c'est que les richesses existent, mais il y a un problème de répartition. Bon, c'est un grand sujet, on ne va pas en débattre maintenant. Mais la subsistance, c'est une question importante. On a vu dans notre Père ce matin, Jésus nous a enseigné à prier « Donne-nous notre pain de ce jour ». Et je crois que derrière ce pain de ce jour, il faut inclure les besoins légitimes qui nous permettent d'entretenir la vie que Dieu nous a confiée. Et Dieu sait si Dieu se préoccupe d'entretenir la vie qu'il nous a confiée. D'ailleurs, dans les versets que nous avons lus, Jésus prend pour exemple les petits oiseaux. Vous remarquez que les oiseaux ne pointent pas, ne travaillent pas, n'ont pas d'employeur. Hein. Le lundi matin, ils n'ont pas besoin de se lever plus tôt que d'habitude ou que le week-end. Moi, je trouve souvent ils ont presque de l'embonpoint. Bon, c'est sûr, on préfère que les petits oiseaux ils mangent les cerises du voisin que celles de votre cerisier. Mais votre Père Céleste les nourrit. Et le Seigneur prend bien soin des petits oiseaux. Et puis Jésus dit, mais regardez les lys des champs. Salomon même n'a pas été vêtu malgré tout le faste de sa cour avec une telle beauté, richesse. Et alors le message il est très clair, si Dieu prend soin de sa création animale, les petits oiseaux, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de sa créature humaine qu'il a créée à son image? Si Dieu prend soin, après la création animale, de sa création végétale, au point de la vêtir d'une manière autrement plus noble encore que tout le faste que l'on pouvait trouver à la cour de Salomon, dans le domaine du prêt-à-porter, à combien plus forte raison Dieu ne prendra-t-il pas soin de ces créatures qui sont créées en image de Dieu? Voilà, le message il est fort. Et s'inquiéter, c'est une attitude complètement incohérente et aberrante. Et puis, c'est complètement inutile et déplacé, parce que Jésus dit bien que l'inquiétude, ça ne va pas rallonger la durée de la vie, mais au contraire, ça va la raccourcir. Et la vie vaut bien plus que la nourriture, et le corps plus que les habits, nous dit Jésus au verset 25. Et l'inquiétude est certainement, c'est un ami qui nous veut du mal. C'est un mal dont il vaut mieux se garder. Une personne anxieuse a tendance à manquer d'objectivité. En général, elle porte des verres teintés sur ses montures. Elle a tendance à oublier les choses, à perdre ses moyens et avoir du mal à prendre des décisions. Et l'inquiétude réduit notre efficacité personnelle et elle nous empêche de jouir de ce qui se trouve à notre disposition. Elle exerce un effet nuisible sur notre santé mentale. Proverbe 12, 25 dit « Le souci au fond du cœur déprime un homme. » Une femme aussi, hein. Proverbe 12, 25. Et dans le domaine spirituel, l'inquiétude nous empêche de nous approprier les promesses de la parole de Dieu. Donc, l'inquiétude pour le membre du royaume, c'est une réaction inutile et déplacée. Ça voudrait dire que, mais attendez, oui, Dieu, il prend soin des petits oiseaux, il prend soin de la fleur des champs, il prend soin de notre salut, et il ne pourrait pas prendre soin de notre destinée éternelle, il ne pourrait pas prendre soin de notre vie temporelle. Vous voyez, il y a quand même ça pose gravement question. Si on croit que Dieu nous accorde le salut et la vie éternelle, qui peut le plus, peut le moins, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de nos besoins quotidiens par sa grâce jusqu'à ce qu'il revienne et nous laisse sur la terre. Donc l'inquiétude est une attitude inutile, déplacée, et puis elle est incompatible avec notre foi, nous dit Jésus. Alors sans parler du fait que l'inquiétude, par définition, elle est énergivore. L'inquiétude absorbe une quantité phénoménale d'énergie émotionnelle qui ne pourra plus être utilisée autrement. Et en somme, Jésus, moi je crois, est en train de nous dire, vous voulez vous inquiéter, ben au moins choisissez les bonnes raisons pour lesquelles vous devez vous inquiéter. Et moi je vais vous lire, ce qui devrait être votre sujet d'inquiétude prioritaire, c'est faire avancer la cause du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, vous seront données par-dessus. Et là, bon, ça apporte une bonne clé pour comprendre ce texte, où Jésus montre que l'ambition du membre du royaume de Dieu, elle est avant tout d'ordre spirituel, moral, éternel, et elle fait confiance à un Dieu souverain qui prend soin et qui finit par tenir sa parole et ses promesses. Et et l'inquiétude est incompatible avec notre foi, puisque au verset 31, il dit ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Et Jésus pose à nouveau la question, où est le plus du membre du royaume? Qu'est-ce que le chrétien fait de mieux? Rappelez-vous, hier on a vu à la fin de Matthieu 5, Jésus dit, l'amour de Dieu ne fait pas de discrimination, Dieu fait briller son soleil sur les méchants comme sur les justes. Eh bien, où est le plus du chrétien? N'invitez pas seulement ceux qui vont vous rendre l'appareil, mais invitez ceux qui ne pourront pas vous rendre l'appareil, et c'est là où vous montrez qu'il y a un plus chez vous en tant que chrétien. Eh bien ici, Jésus nous montre que le chrétien, il a une ambition qui dépasse les limites de la vie sur la terre. Et à la différence d'un païen, il n'est pas uniquement préoccupé par de quoi allons-nous manger, qu'est-ce que nous allons manger, de quoi allons-nous être vêtus, etc. Là où nous habitons, nous avons une voisine. À chaque fois qu'on la rencontre, elle nous parle de son menu, soit de la veille, soit qu'elle va faire le midi. Comme ça, bon, on sait tout. Mais c'est difficile d'avoir une conversation qui dépasse les limites. Bon, c'est des gens de la terre, hein, en pays du cognac, que voulez-vous, hein, ils attendent pas le royaume des cieux, hein, ils attendent plutôt les bulles. Les bulles et... La part des anges, oui. Oui, oui, oui. Mais là, c'est assez aléatoire. Alors en tout cas, Jésus nous dit que l'inquiétude, c'est finalement ne plus croire que Dieu est souverain et qu'il contrôle la situation. Et c'est en cela que l'inquiétude est fautive et coupable. Elle finit par rayer Dieu de la carte. C'est comme si je suis tout seul à me débrouiller. Alors oui, Dieu m'a donné l'assurance du salut et de la vie éternelle, mais par contre, il n'a pas les moyens de pourvoir à mes besoins quotidiens. Alors que Jésus vient de nous dire au début du chapitre 6 qu'on doit prier « Donne-nous notre pain de ce jour ». Donc c'est complètement incompatible, incongru, aberrant, et c'est inadapté. Incompatible avec notre foi. Et c'est incompatible avec une échelle juste des priorités. Et là, Jésus nous dit qu'il faut mettre de l'ordre dans nos priorités. Au verset 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voici comment la Bible du Semeur le transcrit. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Ah, je trouve que c'est bien dit. Hein. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelqu'un dit, il y a deux jours dans la semaine pour lesquels je ne m'inquiète pas. C'est hier et c'est demain. Parce que à chaque jour suffit sa peine. C'est pas plus compliqué que ça. Bon. Mais chacun est motivé par une passion. Chacun nourrit une ambition, poursuit un objectif. La question est de savoir qu'est-ce qui me pousse pour aller de l'avant. Qu'est-ce qui fait que je suis prêt à me lever tôt le matin et à m'investir corps et bien pour faire ce que je crois devoir faire. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont au travail par obligation, pas par plaisir, s'ils avaient le choix. Préférer aller à la pêche ou marcher dans la forêt. Mais voilà. Et Jésus nous dit ici, si vous voulez vraiment vous inquiéter, eh bien, inquiétez-vous pour une bonne raison. Et choisissez d'investir toutes vos billes, j'allais dire, sur le bon chameau. Faites-vous au moins du souci pour ce qui en vaut la peine, ce qui est essentiel du point de vue de Dieu, son royaume. Parce que là, vous ne passerez pas à côté de l'essentiel. Et vous vous démarquerez clairement des païens. Et nous, qui avons l'assurance du pardon de nos péchés, on a non seulement une espérance de vie qui dépasse les limites et les contingences de la vie sur la terre, mais je veux le croire, on a d'autres ambitions et d'autres aspirations et d'autres motivations. Et donc, notre préoccupation majeure, nous dit Jésus, ça doit être de promouvoir le royaume de Dieu. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Moi, je crois déjà, ça veut dire mettre les dons que j'ai reçus au service de la communauté. Faire du règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux ma préoccupation première, je pense que ça veut dire m'impliquer dans l'église locale, là où Dieu m'a placé. Si je crois que dans le projet de Dieu et dans le Nouveau Testament, l'église locale, il faut la mettre sur la carte, elle fait partie du projet de Dieu pour l'humanité. Quelqu'un a bien dit, Dieu a envoyé ce qu'il avait de meilleur, son Fils, pour racheter ce que la terre avait de pire, moi et nous, pécheurs que nous sommes, et pour cela, en faire l'église. Et voilà le projet de Dieu au travers de l'Église. Alors si je crois ça, que l'Église fait partie du projet de Dieu et qu'elle a un enjeu éternel, eh bien je vais mouiller le maillot dans l'Église locale et je vais m'employer à être une pierre vivante. Et je pense que les responsables spirituels, leur job c'est d'aider chaque membre à découvrir son ou ses dons et puis les aider, leur permettre de les mettre en pratique au bénéfice du corps. Et là, je crois que c'est ça, faire avancer la cause de l'Évangile et du royaume de Dieu. Et puis, c'est considérer les réalités spirituelles et invisibles au-dessus des réalités matérielles tangibles. Et nous devons rechercher ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire, du point de vue de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important dans la loi, Jésus l'a dit, aimer Dieu de tout son cœur, et puis aimer son prochain. Et l'amour du prochain, à table on faisait remarquer que quelqu'un faisait remarquer que parfois l'Église a tendance à s'embourgeoiser le niveau de vie augmente et puis on finit par oublier les laissés pour compte dans la société. Et c'est étonnant, moi je suis frappé de voir Paul et Jacques, l'apôtre Jacques nous dira la même chose à la fin du premier chapitre, que la religion pure et sans tache devant Dieu consiste non seulement à se garder des souillures du monde, mais à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et Paul mettra un point d'honneur à ne pas négliger l'assistance aux pauvres. Bien encore, hein, mettre son amour en action, je crois que auprès des nécessiteux, ça c'est rechercher ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et la promesse, c'est que toutes ces choses vous seront données en plus. En somme, Jésus nous invite à mettre de l'ordre dans nos priorités. Et ça, c'est pas évident. Déjà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien prendre une feuille de papier et puis écrire sur une feuille de papier toutes les choses que je dois faire pour demain. Bon, si je sais ce que je dois faire demain, en général, je dors mieux, mais bon, ça c'est moi. Bon, mais alors c'est bien d'écrire tout ce que je dois faire pour le lendemain. Mais le défi après, c'est de hiérarchiser. 1, 2, 3, 4, 5, mettre dans le bon ordre. Et puis évidemment, le défi le lendemain, c'est de commencer par le numéro 1 et puis ensuite le numéro 2. Et de ne pas procrastiner, comme disent les anglo-saxons, remettre à plus tard ce que je devrais faire maintenant. Et en général, on préfère faire dans l'immédiat ce qui est agréable et laisser le moins agréable le remettre au bas de la liste. Bon, ben Jésus nous invite à mettre de l'ordre dans nos priorités. Et ça, c'est un défi et on a besoin de la sagesse d'en haut. Mais ce faisant, verset 34, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. Alors, s'il est légitime de prévoir pour l'avenir, et Dame Fourmi est là pour nous le rappeler, et le livre des Proverbes chante les vertus de la fourmi, et en l'occurrence, mieux vaut être fourmi que cigale, eh bien, il est par contre coupable de s'inquiéter de l'avenir. Et à chaque jour suffit sa peine. Je dois vivre dans l'aujourd'hui de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est comme l'électricité. On ne peut pas en faire un stock. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu, elle ne craint pas une rupture de stock. D'accord, EDF, on peut avoir des coupures. Mais la grâce de Dieu, je veux dire, c'est à consommer au moment... bon, c'est un peu comme la pile Vondère, ça ne s'use que si l'on s'en sert, mais ça ne s'use pas, la grâce de Dieu. Mais on ne peut pas la stocker pour demain matin. C'est dans l'instant qui passe. Bon, ben on revient dans la même... sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a constamment besoin de dépendre du Seigneur. Apprendre à vivre dans l'aujourd'hui de Dieu. Et je crois que c'est ce que le Seigneur a cherché à faire avec son peuple dans le désert. Il fallait attendre jour après jour la livraison de la manne qui arrivait à point nommé et au bon moment. Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu d'aujourd'hui, il est aussi le Dieu du lendemain. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oh oui, ta fidélité est grande. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 à 25. Donc la solution ne consiste pas à tout miser sur la vie ici-bas, pas plus qu'à tout investir dans la vie à venir, au point d'oublier de vivre ici et maintenant. Donc, le membre du royaume, il est appelé à assumer sa double citoyenneté, céleste, qui doit avoir la prééminence, je dirais, mais en même temps sans renoncer à sa citoyenneté terrestre. Et là encore, on revient à ce qu'on disait hier, c'est une question d'équilibre, maintenir l'équilibre entre les deux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des remarques sur ce qu'on vient de voir? Vous êtes formidable, hein? Alors, est-ce que on fait la pause maintenant? Ça, il y a un petit creux dans l'estomac? Non ? Vous êtes prêts à continuer maintenant ou... Bon. Comment ? Moi ça tient, moi. Oh là là, mais moi ça tient, moi. Je suis prêt à continuer jusqu'à ce soir. Non, 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 non. Alors on en vient au point 6. Le chrétien et ses relations, une question de clairvoyance. Matthieu 7, 1 à 12. Bon, on va survoler, hein. Alors, j'admire le réalisme de Jésus. Jésus sait très bien que parmi le peuple de Dieu, eh bien, il peut y avoir des membres défaillants. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil le dimanche matin au culte. Bon, là, on est déjà dimanche après-midi, hein. C'est un peu dur de tenir dans la durée. Mais Jésus sait que tôt ou tard, dans la communauté chrétienne, eh bien, on va trouver des choses qu'on ne devrait pas trouver. Et il va raconter la parabole de la paille et de la poutre. Et là, Jésus va nous inviter à faire preuve de clairvoyance. Le chrétien et ses relations, une question de clairvoyance. Alors, Jésus nous invite à développer des relations adaptées. Alors, d'abord avec les frères défaillants. Et c'est dans ce contexte où, comment est-ce qu'on réagit quand on voit quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé chez l'autre. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il leur dit... Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, vous avez été prédestinés, adoptés, vous avez été rachetés, vous avez bénéficié du sceau de l'Esprit, vous êtes assis avec Christ, et le mur de Berlin est tombé entre les Juifs et les païens, tout cela. Et puis au chapitre 4, marchez d'une manière digne de l'appel, de la vocation qui vous était adressée. Et puis il va dire, supportez-vous les uns les autres. On a l'impression de se dire, les saints assis avec Christ dans les lieux célestes, bénis de toute éternité, se supportaient les uns les autres. Il va leur dire, vous mettez pas en colère, ou du moins, n'agressez pas votre prochain par des paroles pourries, dans l'original c'est le mot qu'il emploie. Il va leur dire, soyez remplis de l'esprit, et plutôt que... enivré de vin, un chrétien qui boit un coup de trop, ça existerait. Aux Galates, il va leur dire, ne vous dévorez pas les uns les autres. Non mais c'est très fort. Du chrétien qui veut manger du chrétien, ça existe. Du chrétien qui veut casser du voisin. Moi j'admire le réalisme de Paul qui avait des heures de vol, des kilomètres au compteur, qui avait une expérience... de la pastorale en église, et il savait que les chrétiens n'avaient pas toujours tout bon partout. Et donc la question de savoir, et Jésus l'aborde dans cette section 7 à 5, comment est-ce qu'on réagit quand on trouve quelque chose de problématique chez l'autre. Au verset 6, il va parler des pécheurs impénitents. Les juifs considéraient ceux qui n'étaient pas juifs comme des petits chiens, et ceux que... on considère qu'ils sont connotés négativement, quelle attitude avoir vis-à-vis d'eux. Et puis, je vais passer très rapidement sur les versets 7 à 11, Jésus va parler de notre rapport à Dieu dans la prière. Et puis enfin, au verset 12, il va énoncer la règle d'or par excellence, finalement, faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Et là, une fois de plus, ça tape dans le mille. La messe est dite et il n'y a plus qu'à. Donc, me semble-t-il, le schéma de la pensée de Jésus dans ses versets 1 à 12, où il nous invite à développer des relations adaptées. Je rappelle pour les frères et sœurs qui le souhaiteraient, vous pourrez récupérer le PowerPoint auprès des ingénieurs du son. Et de la technique, chef de la technique. Alors, rapidement, verset 1. Ne condamnez pas les autres, ou ne jugez pas. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné. Car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné. et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure ou la paille dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, et alors tu y verras, c'est clair, pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Bon, ben, une fois de plus, hein, Jésus tape dans le mine, et ça dégomme. Alors Jésus dit non à l'esprit de jugement. Il y a une différence entre juger et discerner. Juger, c'est imputer une intention ou une disposition que la personne n'a pas. On colle une étiquette sur le front des gens, et en général c'est pas écrit la poste, hein. C'est plutôt connoté négativement. Vous savez, en grande surface, on voit parfois des gens qui étiquettent les produits avant de les mettre en rayon, pour mettre le code ou le prix. Bon, et il y a des gens, ils n'ont pas d'étiqueteuse, peut-être qu'ils ont un sourire 3h-10, évangéliquement correct, mais mine de rien, ils vous étiquettent, et ils collent quelque chose sur votre front, et ils ont un dossier sur vous. Peut-être ça vous arrivez dans un groupe où vous ne connaissez personne, vous allez passer un week-end. Les premières impressions, bon, je sais qu'il y a des personnes, surtout les femmes, qui ont des capteurs invisibles, des antennes qui détectent des choses que nous, les hommes, on ne voit pas. Mais, parfois, la première impression qu'on a d'une personne n'est pas toujours la bonne. Alors, je sais que parfois, ça tape dans le mille, hein, on est d'accord, mais bon. Et parfois, on est étonné de voir l'idée qu'on s'est faite de la personne la première fois qu'on l'a vue, et puis à la fin du week-end. Et parfois, on est obligé de réviser notre copie. Hein. Bon, peut-être que je projette mon problème personnel sur le genre humain tout entier, je ne sais pas. Mais en tout cas, avoir un esprit de jugement, c'est ça. On colle une étiquette, lui, elle est comme ça, voilà. Parce que de toute façon, Jésus nous montre, on porte tous des lunettes. Et on a tous des verres correcteurs. Et vous savez, la technologie fait des prodiges. Mes verres correcteurs, ils grossissent mes qualités à moi. Mais ces verres correcteurs, ils diminuent vos qualités. Et mes verres correcteurs, ils diminuent mes défauts. Mais ils grossissent les vôtres. Évidemment, c'est à mon avantage, hein. Et toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas pure coïncidence. C'est le drame de notre condition déchue depuis Adam et Ève. Mais donc, Jésus dit non à l'esprit de jugement. Ne vous prenez pas pour le juge de la Cour suprême. Jacques nous dit, celui qui émet un jugement de valeur sur les autres, eh bien, il se place au-dessus de la loi. Et il prend la place du législateur. Et là, c'est comme l'argile qui prend la place du potier. C'est irrecevable. Absolument anormal. Et là, je crois que Jésus, comme toujours, avec beaucoup de discernement, met le doigt sur un problème dans nos relations les uns avec les autres. L'esprit de jugement. C'est une qualité que d'être sensible, mais être hypersensible, c'est un défaut. Et nos points forts, nos qualités peuvent avoir leurs points faibles, leurs défauts. Tiens, j'arrive à l'église ce matin, il me saute au cou pour me dire bonjour, mais il m'agresse. Tiens, j'arrive à l'église ce matin, il vient pas me dire bonjour, mais il m'en veut. Et vous savez, parfois il y a des gens, ils font tout un cinéma, hein. Et ils imaginent des choses parfois, et il y a des gens hypersensibles, trop sensibles, qui finissent par avoir des choses que, qui ne sont pas dans la réalité. Et ça génère de la friture dans les relations, et du trouble dans le rapport à autrui. Si on a un dossier les uns sur les autres, et si, oui, de toute façon, là, il y a 13 raisons bétonnées, FB, Francis Bouygues, pour lesquelles, ouais, de toute façon, lui ou elle, voilà, il est comme ça, j'ai tout un... Déjà, depuis son arrière-grand-mère, c'était comme ça, donc ça ne peut pas changer, hein, les chiens ne font pas des chats. Donc, voilà, ça... Voilà, et il y a des gens qui ont un esprit de jugement, ils semblent, vous savez, comme le gendre idéal ou le voisin idéal qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais en attendant, on vient d'apprendre dans les news qu'il a assassiné sa femme. Voilà. non à l'esprit de jugement. Et puis, Jésus parle de l'évaluation d'autrui appliquée à soi-même. Quand il dit, vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Ben, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, hein. C'est l'effet boomerang dans les relations. Le bien ou le mal que je fais aux autres, d'une manière ou d'une autre, me retombe dessus. C'est le retour à l'envoyeur. Celui qui creuse un trou pour y faire tomber son ennemi, il tombera lui-même. Vous connaissez l'histoire dans la reine Esther, Haman, qui avait fait dresser une potence, tel épris qu'il croyait prendre, comme eût pu dire Jean de La Fontaine, c'est Haman qui a inauguré la potence. Dans Éphésiens 5, Paul dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ouh là là, ça fait 41 ans que je suis marié, et dans ma petite tête, avec mon cervelet, je médite conjugalement et religieusement cette pensée. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et j'ai commencé à comprendre au bout d'un certain temps que dans la mesure où je choisis d'investir dans le bien de mon conjoint, eh bien, retour à l'expéditeur, et je vais rafler la mise, il y aura un retour sur investissement. Bon, on va pas réduire la vie de couple à un calcul d'apothicaire, on est bien d'accord. Mais non, mais regardez, la parole est la réponse à tout, hein. Et moi, j'invite tous les hommes, dans leur temps libre, entre minuit et 6 heures du matin, à réfléchir, à méditer. Non, mais à méditer, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et moi, j'ai constaté, quand ma femme voit que je fais des efforts pour parler son langage d'amour, oh ben alors là, j'en ai pour la monnaie de ma pièce, hein. Donc, bon, voilà. Alors, la question qui tue, un train pouvant en cacher un autre, la question qui tue est de savoir où est la paille, où est la poutre. Et là, c'est terrible parce que Jésus dit que la poutre, elle est chez moi. Moi, j'ai une poutre dans mon œil. Mais vous qui connaissez Matthieu 7, 1 à 5, quand vous me regardez, vous voyez seulement une paille. Moi qui connais Matthieu 7, 1 à 5, je sais que j'ai une poutre. Mais remarquez, il faut faire fort quand même, parce que rien qu'avec la poutre dans mon œil, moi quand je vous regarde dans le blanc des yeux, je vois une paille. Non mais, il faut jouer fin, hein, quand même. Mais le problème, ça c'est ce que Jésus dit. Le problème, nous on pense que ben, la poutre elle est chez les autres. Le problème, il est chez l'autre. Alors là, si on est convaincu que le problème il est chez l'autre, ben, il n'y a aucun espoir. Hein. Et on va rester dans une ornière pas possible. Et au verset 5, Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il dit, hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil et tu verras ensuite comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Il y a des gens qui ont des problèmes personnels gros comme ça, non résolus, et qui se donnent comme qui prétendent être des maîtres pour aider les autres à résoudre leurs problèmes personnels. Ben, imaginez un chirurgien qui voudrait opérer avec des instruments non aseptisés. Ben, bonjour les dégâts, hein. Beaucoup de situations conflictuelles restent bloquées et en rade parce que j'attends que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Comme on disait hier, Jésus a dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Et nous avons dit que la balle, elle est dans mon camp. C'est à moi qu'incombe la responsabilité de prendre l'initiative d'enclencher le processus de restauration de la relation brisée. Et là, Jésus dit, hypocrite, balaye d'abord devant ta propre porte. Moi, j'ai observé, bon, après 41 ans de mariage, Dieu merci, on a de moins en moins de conflits entre ma femme et moi, mais enfin, continuez de prier pour nous. Et moi j'ai observé que la grammaire française peut faire des miracles dans la vie de couple. Parce que quand il y a un problème, le fait d'utiliser la deuxième personne du singulier, tu a dit ceci, tu a fait cela. Et là on sort le kalachnikov et on accuse et puis on casse la maison. Mais j'ai observé quand j'écoutais un peu plus, un peu mieux le Saint-Esprit, pour résoudre le conflit, je choisissais d'employer la première personne du singulier, je, j'avais déjà moins de choses à dire, et je devais mettre la virgule au bon endroit, ni un demi-ton au-dessus, ni un demi-ton en dessous, et en tout cas, je devais finir par cracher le morceau, je te demande pardon, j'ai dit ceci, j'ai fait cela. Comme on a dit hier, même si je ne suis responsable qu'à hauteur de 30% dans le problème qui nous sépare, devant Dieu, je dois assumer à 100% les 30% qui m'incombent. Bon, ceux qui n'ont toujours pas trouvé la réponse, je vous donnerai mon adresse mail et mon numéro de téléphone, et par SMS ou par mail, je vous dirai la réponse. Mais et c'est tout simple ce que dit Jésus dans verset 5, hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. C'est d'une simplicité enfantine. Autrement dit, Jésus dit, balaye d'abord devant ta propre porte, et puis tu verras comment tu peux aider. Voilà. Mais là, moi je trouve que ces cinq versets, c'est d'une profondeur, mais... Et franchement, dans le domaine des relations personnelles, c'est béton, c'est vraiment efficace au possible. Et franchement, je connais pas mieux. Hein. Bon, ben comme toujours, l'enseignement est gratuit, mais ce qui coûte cher, c'est la mise en pratique. Alors, deuxième catégorie de personnes défaillantes. Verset 6, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Alors là, Jésus nous dit qu'on a besoin de discernement et qu'il faut anticiper et qu'on a besoin de sagesse. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. Je vous lis simplement l'explication que j'ai trouvée chez Alfred Kuhn dans Paroles Vivantes sur ce verset. Notre tendance à voir les côtés négatifs chez les frères peut nous amener à en parler même devant les gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Chien était un terme de mépris que les Juifs employaient pour les païens. Nous livrons donc ce qui est sacré pour le Seigneur, ceux qui ont été introduits dans son sanctuaire, à ceux qui ne lui appartiennent pas et qui les traîneront dans la boue comme les cochons le feraient de perles précieuses dont ils ne sauraient que faire. Ne vous étonnez pas dans ce cas, nous avertit Jésus, si après cela ces mêmes païens se retournent contre vous pour vous attaquer et vous calomnier de la même manière. Pour faire simple, imaginez un chrétien qui casse du sucre sur son frère ou sa sœur en Christ auprès d'un inconverti. Ben vous imaginez que l'inconverti, vous lui tendez le bâton pour vous faire battre, et puis non seulement vous, mais toute l'Église. Et donc, voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je ne vais pas non plus m'attarder sur ce texte qu'on connaît bien, « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, etc. » Jésus démontre ici, dans ses versets 7 à 11, le mécanisme de la prière, c'est d'une simplicité enfantine. Nous, on a tendance à compliquer les choses simples. Il y a beaucoup de livres écrits sur la prière. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à élucider le mystère de la prière. Ils lisent plein de livres, mais ils n'ont plus le temps de prier. Bon, il y en a d'autres qui ne comprennent pas tout, mais ils prient, et puis voilà. Mais dans ces versets, Jésus démonte le mécanisme de la prière, et c'est d'une simplicité enfantine. On pourrait rapprocher ça du Notre Père, mais voilà. Donc, l'approche de Dieu dans la prière, demander, chercher, frapper, c'est un ordre. Recevoir, trouver, répondre, c'est une promesse, et puis c'est un principe spirituel vérifié, et... Jésus dit, si votre père terrestre donne à manger à son enfant qui lui demande à manger plutôt que de lui donner une pierre, à combien plus forte raison le Père Céleste répondra-t-il à votre attente? Et dans le passage parallèle chez Luc, Luc dit, Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et puis là, la règle d'or, et on est sur le toit du monde, sur l'Himalaya spirituel,
faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes.
Alors dans le judaïsme, on allait jusqu'à dire, ne faites pas aux autres les crasses que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse. Ça c'est sous forme négative. Mais là Jésus, c'est beaucoup moins restrictif. Et franchement, si vous étudiez tous les codes de loi éthique dans différentes religions, y compris dans le bouddhisme et tout ça, alors il y a des paroles de sagesse, mais on n'atteindra jamais ce niveau. Parce que c'est l'exigence la plus élevée que l'on puisse trouver. Il faut vraiment l'amour de 1 Corinthiens 13 pour vivre ce verset 12. Il faut les ressources spirituelles que le Saint-Esprit seul peut nous donner. Et puis Jésus ici inclut l'amour du prochain dans l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. Et les deux ne sont pas dissociables. Et puis, on peut dire que cet enseignement de Jésus, il est absolu, il est exclusif, tandis que l'éthique humaine est souvent relative et pluraliste. Elle est relativiste, je veux dire, elle est pluraliste. Là, on n'est pas dans le même registre. Et puis, évidemment, ce qui est recherché ici, c'est la gloire de Dieu. On est vraiment dans le haut de gamme, c'est vraiment le toit du monde, hein, une sorte d'Himalaya spirituel. Et c'est clair que pour pouvoir vivre ce verset 12, eh bien, comme dit le verset suivant, verset 13, il faut être entré par la porte étroite de la repentance qui permet de marcher sur le chemin resserré de la sanctification qui mène à la vie éternelle. Mes amis, il est 15h46, heure locale. J'ai cru comprendre que il nous reste 45 minutes de bonheur. Alors, ou bien on fait une pause maintenant, ou bien vous avez encore l'énergie de tenir encore un petit peu. Que demande le peuple? C'est dangereux d'écouter la foule, hein. C'est pas biblique, hein. Mais bon, mais si quelqu'un doit se lever, il y a des bons gâteaux là encore. On comprend bien que on fait une petite pause pour recharger les batteries. Hein. Bah oui, il y en a qui s'endorment. Alors.